Bonjour.
Donc, merci d'être venu. Moi, je suis Alzadeh, mon collègue Frédéric Lagarde, on fait partie de l'association Le Champ des Possibles. Le Champ des Possibles, c'est une asso qui est à Gencioux-Pigerol. C'est un village à une heure et quart au sud d'ici, sur le plateau de Mille Vaches. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la recherche scientifique en écologie. On essaye de s'intéresser à l'impact des changements globaux sur la biodiversité. Et dans les changements globaux, on intègre à la fois le réchauffement climatique, les évolutions de paysages et aussi l'impact d'autres types d'activités humaines, activités agricoles, forestières, enfin voilà. Et on essaye de faire de la recherche scientifique à une échelle locale, en fait, de se poser un peu les questions auxquelles sont confrontés les acteurs d'un territoire, d'y répondre si possible, et pour permettre à ces personnes d'avoir un peu plus de billes sur l'impact sur la biodiversité qu'ils vont avoir au cours de leurs activités, quoi. Et donc là, aujourd'hui, on est venu vous présenter une étude qu'on a menée entre 2020 et 2022 sur la biodiversité forestière. Donc l'idée, en fait, c'est pas vraiment de vous faire un inventaire, en fait, de tout ce qu'on va trouver dans une haie, mais plutôt, en fait, de vous inviter à nous suivre, en fait, dans la recherche scientifique qu'on a menée. Je vais vous expliquer un peu le contexte, la problématique, et puis quelles questions on s'est posées, comment on a réussi à mettre en place une étude pour essayer d'y répondre. Donc, le contexte de l'étude, c'est le contexte donc paysager du plateau de Mille Vaches. Donc le plateau de Mille Vaches, c'est cet espace, il y en a certains qui doivent connaître, on n'est quand même pas très très loin. Donc une heure au sud d'ici, on est entre Limoges et Clermont, c'est de la moyenne montagne, c'est un paysage un peu en boîte d'œuf, et c'est un paysage qui a vraiment beaucoup changé, en fait, entre le 19e siècle, enfin au cours des deux derniers siècles. Et du coup, si on imagine le plateau de Mille Vaches à la fin 19e, on a un espace où il y a très très peu d'arbres. Il y a vraiment essentiellement une activité agricole forte de pâturage extensif au vin. Petit à petit, pour ce pâturage extensif, les gens ont défriché énormément. Et à ce moment-là, c'est le moment où il y a le plus d'habitants sur le plateau. Et c'est aussi le moment où ils chauffent à la tourbe. Il n'y a plus d'arbres, quoi. On voit ces cartes postales de la bergère avec uniquement des landes à bruyères derrière. Et après, la suite de l'histoire, on la connaît, c'est un petit peu la même un peu partout en France, hein, c'est la déprise agricole, l'exode rural, du coup, bon, beaucoup moins de pâturage. Et là, la forêt reprend une partie du territoire par deux moyens, soit des accrues, donc de la friche au départ, mais au bout de 70 ans, ça fait une chaîne acidiphile. Et l'autre versant, c'est l'État qui encourage la plantation, au départ de l'épicéa et puis après surtout du Douglas. Aujourd'hui, essentiellement, enfin, à 99% du Douglas, en ligne, exploité tous les 30 ans avec tous les problèmes de la sylviculture industrielle dont vous avez sûrement entendu parler. Donc il y a l'IPAMAC qui a fait un travail de cartographie. Là, vous avez le tracé un peu la carte du PNR Mille Vaches en Limousin. L'IPAMAC, c'est l'association Interparc du Massif Central, et ils sont basés, en fait, sur la carto d'état-major pour essayer de repérer, en fait, les forêts anciennes. Alors, une carto d'état-major, c'est vraiment une carte pour l'armée, hein, c'est pas vraiment une carte pour l'écologie. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire les voies de communication, etc. Donc ça, c'est assez peu précis pour un travail comme ça. Il y a une bonne marge d'erreur, mais c'est le document le plus ancien exploitable sur le territoire, donc pourquoi pas. Donc là, vous voyez les taches vert foncé, ce sont les forêts qui existent sur le plateau de Mille Vaches en 1842. Et en orange un petit peu là sur la marche un peu à l'ouest, vous avez celles qui se sont fait défricher un peu depuis. Donc vous voyez qu'en gros, il y en a extrêmement peu, et en plus c'est extrêmement fragmenté. Et alors après, donc je vous disais, après ça, la forêt a beaucoup poussé depuis, et là c'est toute la partie verte, claire, c'est la forêt actuelle. Alors, la forêt, entre guillemets, puisqu'ils ont mis les plantations avec. Mais du coup, on passe d'une surface forestière qui était de 7% au plus fort de la déforestation au 19e siècle, à aujourd'hui un 55%, 55% à prendre donc avec des pincettes, puisque la moitié, c'est de la plantation de Douglas en ligne, et l'autre moitié, c'est vraiment de la chênaie. Ces 7% aujourd'hui, ils ne sont pas tous là, ils se sont fait un petit peu ratiboiser entre temps. Donc aujourd'hui, on estime que sur le plateau de Millevaches, de la forêt vraiment ancienne, ça ne représente que 5% du territoire. Donc c'est vraiment très très peu et très précieux, on va le voir ensuite. Et là-dessus, en plus, il faut ajouter le fait qu'il y a des disparités en fait, au niveau territorial. Vous voyez, en fait, comme c'est fragmenté, il y a des endroits où il y a de la forêt ancienne, et il y a des endroits où il n'y en a quasiment pas. Nous, sur notre commune de Gensioux-Pivrolles, de la forêt très ancienne, c'est 0,8% de la surface de la commune. Donc ça, c'est pour le contexte. Hop là, on est allé un peu trop loin. Hop, on remonte. Maintenant, quelle question on va se poser ? Alors, Fred et moi, on est naturalistes, donc on se balade sur le plateau et puis on fait des observations. Et là, parmi nos observations, on a des choses qui nous surprennent, c'est qu'on observe des espèces qui sont des espèces qui indiquent vraiment la présence de forêts anciennes de qualité. Et là, ça nous interpelle, parce qu'on est sur un territoire où il y a très peu de forêts anciennes, et on observe des organismes qui sont extrêmement spécialistes, et généralement, on va revenir dessus, mais des organismes extrêmement spécialistes, c'est des espèces qui dispersent peu et lentement. Donc, si elles sont là, et en grand nombre, c'est qu'elles sont là depuis longtemps. Et du coup, comment on explique en fait, leur présence sur notre territoire, alors qu'on n'a pas ces forêts anciennes ? Donc, on se pose la question de savoir quelles ont pu être les zones refuges en fait, pour ces espèces au plus fort de la déforestation, au 19e. Et l'hypothèse du coup, qu'on formule, c'est est-ce que, au fond, les haies anciennes et arbres isolés anciens n'ont pas pu contribuer au maintien de ces espèces-là. Parce que ce qu'on a vu la carto, depuis la carto de l'état-major, le travail de l'IPAMAC, ils ont pu faire ça du coup vraiment à la louche où on voit les taches vertes sur la carte de l'état-major, mais à aucun moment vous avez les haies anciennes et les arbres isolés anciens. Donc ça ne prend pas forcément tout en compte. Donc nous, ce qu'on voulait voir, c'était d'étudier en fait quelle était la contribution des haies anciennes et des arbres isolés anciens pour essayer, dans le maintien donc, de zones refuges pour ces espèces affiliées aux espaces forestiers anciens. Et ces zones refuges, il faut voir qu'aujourd'hui, ça devient des centres de dispersion pour cette biodiversité forestière, puisqu'on a beaucoup maintenant de forêts récentes, et donc c'est la biodiversité des forêts anciennes qui est maintenue potentiellement des petits patchs, elle va pouvoir aujourd'hui se disperser et se répandre du coup, dans des forêts plus récentes, à condition qu'on les laisse un peu vieillir quand même. Et donc l'idée, c'était de pouvoir localiser en plus de ça donc, ces zones refuges, centres de dispersion de la biodiversité ancienne, dans l'espoir de pouvoir après passer à de la préservation, etc. Mais ça, c'est plus de notre sort après en tant qu'association Champs des Possibles. Alors, pour pouvoir répondre à cette problématique là que je vous ai proposée, il nous fallait une cartographie assez précise. Puisqu'on a vu, donc, on a la cartographie de l'IPAMAC avec les espaces boisés très anciens. Nous, on a une cartographie d'habitat actuel qui nous était fournie par le PNR de Millevaches en Limousin. Mais alors dans la cartographie actuelle, on a juste des zones boisées feuillues, des zones de plantation qui ne nous intéressent pas, mais on n'a pas du tout l'âge des différents types d'éléments forestiers. Et on a vu la cartographie de l'IPAMAC, elle ne prend pas du tout en compte les haies et les arbres isolés. Donc comment on fait pour avoir cette cartographie, une cartographie précise des espaces forestiers ? Eh bien, on a utilisé l'unique document qu'on pouvait trouver, c'est les photographies aériennes de 1950, donc les plus anciennes photographies aériennes. Et à partir de ces photographies aériennes, on a pris notre souris, ça se fait sur ordinateur, on a commencé à dessiner tous les arbres isolés, les haies anciennes, etc. Ça prend un certain temps. L'idée étant d'obtenir à la fin une cartographie où vous voyez, donc, alors en marron, en bas, c'est la partie forêt ancienne, telle que cartographiée par l'IPAMAC, mais il y a toute la partie en vert foncé, là par exemple, qui est toutes les haies, et ça, ça passait à la trappe. Voilà. Donc on a fait ça, ce travail-là, uniquement sur la commune de Gensio. Au départ, on avait plus d'ambition sur cette étude, et quand on a vu ce qu'on devait faire, on a revu un peu à la baisse au niveau superficie. Il faut voir quand même que la commune de Gensio-Pigerol, c'est la commune de Creuse qui a la plus grande surface. Hein. On a 79 km² à cartographier à la souris comme ça. Donc voilà. C'était un beau travail. Mais ça, c'est du coup le document de base qui va nous permettre. Alors après, on regarde ces forêts et puis on recoupe avec la carte récente, parce qu'entre-temps, entre 1950 et nos jours, vous avez bien idée qu'il s'est passé deux, trois choses. Et à la fin, du coup, on a cette carte qui nous sert de base où on a quatre typologies d'éléments forestiers. On a les forêts très anciennes, celles qui étaient cartographiées par l'IPAMAC avec la carte d'état-major avant 1842. On va avoir des forêts anciennes de 1950, celles qu'on voit sur la carte, sur la photo aérienne et qui sont encore présentes aujourd'hui. On va avoir les forêts plus récentes, celles qui ne sont pas sur la photo, mais qui aujourd'hui sont sur les photos aériennes actuelles. Et puis on va avoir tout ce qui est haies anciennes et arbres isolés anciens qu'on met sur une quatrième catégorie. Et donc à partir de ces quatre catégories, on va après regarder comment des espèces bio-indicatrices de milieux forestiers, où est-ce qu'elles se situent. Donc là, il nous faut des espèces. Donc, on va choisir des espèces qu'on va appeler des bio-indicateurs. Donc, c'est des espèces qui vont nous aider à répondre à notre problématique. Alors, qui on va choisir et combien on va en choisir ? Alors, ben, faut en choisir au moins deux. Pour quelle raison ? Parce que si on n'en prend qu'une, par exemple, si on prend mon petit coléoptère là-haut, si j'arrive à prouver quelque chose sur ce coléoptère, je saurai que pour ce coléoptère, ça se passe comme ça. Mais je ne pourrais pas étendre mon raisonnement à l'ensemble de la biodiversité forestière. Si j'arrive à montrer une même tendance à la fois chez un coléoptère et chez un lichen, j'ai plus de chances de pouvoir généraliser mon propos sans dire trop de bêtises. Donc, on a décidé de partir sur deux bio-indicateurs, les coléoptères saproxyliques et des lichens du genre Lobaria. Alors, je vais vous les présenter un peu plus. Donc, des coléoptères saproxyliques. Donc, saproxyliques, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ce sont des espèces qui, à un moment de leur cycle, dépendent du bois mort ou du bois mourant, ou des espèces qui sont affiliées là-dedans, qui sont inféodées. Ce sont, par exemple, des coléoptères qui vont manger des champignons qui, eux-mêmes, ont dégradé du bois mort, par exemple. Donc, on a ces espèces qui dépendent du bois mort, au moins dans leur cycle larvaire, voire pendant toute leur vie. Un quart de la biodiversité forestière est saproxylique. Donc, le bois mort, c'est un compartiment super important sur une forêt. Chez les coléoptères, donc les coléoptères, c'est un ordre d'insectes. Hein, tout le monde voit ce que c'est qu'un coléoptère. Il y a les coccinelles là-dedans. Voilà. Et puis, vous en avez quelques-uns en photo. Donc, les coléoptères, c'est l'ordre d'insectes où on a le maximum de monde. Il y a plein de familles. Une fois qu'on a pris que les coléoptères saproxyliques, on est content, on a 20% des coléoptères. Il nous reste 2500 espèces réparties dans 74 familles. Du coup, ça fait encore du job. Ah oui, c'est marrant, ça a changé un peu la mise en page. Là, je vous ai mis deux, trois petits coléoptères. Donc, vous avez un ténébrion, un lucane cerf-volant, un élatéridé, c'est la bande des taupins, un cérambicidé, le longicorne avec ses grandes antennes, un petit cléridé. Voilà. Et alors, pourquoi nos saproxyliques sont de bons bio-indicateurs ? Bah, déjà, on a dit, hein, ils aiment le bois mort, et donc ils vont être finalement assez spécialistes en fait, dans la forêt, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est ce compartiment-là. Ce qu'il nous faut pour avoir des bons bio-indicateurs, ce sont des espèces spécialistes. Parce qu'une espèce qui serait généraliste, qui aurait une niche écologique super large, en gros, qu'on peut trouver n'importe où, elle ne va pas nous aider à répondre à des questions. Et donc, on veut une espèce qui est assez spécialiste dans son habitat, spécialiste de forêt ancienne de qualité, si possible, si on veut pouvoir répondre à la bonne question. Et souvent, ce sont des espèces aussi qui vont avoir de faibles capacités de dispersion. C'est ce que je vous racontais aussi tout à l'heure. Pourquoi ? Bah, tout simplement, une espèce qui est extrêmement spécialiste, qui va aimer un type de cavité très particulier, etc. Si il s'en va, la probabilité pour qu'il retrouve exactement son habitat de prédilection, elle est faible. Donc, les adultes qui partent, ils arrivent rarement en fait à fonder une nouvelle population. Souvent, ils clament sans arriver à leur fin, et donc, en gros, évolution oblige, ils sont éliminés, et ce caractère est de moins en moins répandu, celui d'aller disperser. Pour exemple, par exemple, ce petit Osmoderma là, on considère qu'il y a que 15% des adultes qui tentent une dispersion, et quand ils tentent une dispersion, ils font 200 mètres maximum. Donc ça va être aussi des espèces qui vont prendre du temps pour coloniser d'autres espaces. Et alors, ce qui nous plaît aussi dans les coléoptères saproxyliques, c'est qu'on ne défriche pas complètement le terrain. Parce que sinon, si on s'intéresse à une espèce, à un groupe d'espèces que personne ne connaît, c'est super, mais en fait, on va vraiment avoir du mal, si on n'a pas déjà des renseignements sur les espèces, à en tirer quelque chose. Et là, les coléoptères saproxyliques, il y a ce grand atlas qui a été écrit notamment par Brucknell, qui a fait tout un travail sur des coléoptères saproxyliques, qui leur a attribué des espèces de notes, d'indices, avec un indice de rareté, l'IP, l'indice de patrimonialité, qui s'appelle aussi, qui va de 0 à 4, et l'IF, un degré d'exigence vis-à-vis de l'habitat larvaire. Et ils considèrent que si l'IP plus l'IF est supérieur à 6, alors là, on a une espèce indicatrice du tonnerre. Alors maintenant qu'on a choisi nos espèces, nos coléoptères saproxyliques, il faut encore les attraper. Alors comment on s'y prend ? Eh ben, on va poser des pièges qu'on va mettre dans la forêt ou dans les haies. Alors un piège à coléoptères saproxyliques, ça se présente comme ça. En gros, c'est une bassine sur laquelle on a fixé une vitre en plexiglas. Et donc dans la bassine, il y a de l'eau salée. Le coléoptère saproxylique vole de temps en temps, quand même ça lui arrive, de sortir de son arbre. Il tape dans la vitre en plexiglas, il tombe dans la bassine, il se noie. Et moi, je viens le chercher tous les 15 jours pour le mettre dans de l'alcool. Donc l'animal est mort, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est de pas mettre des pièges absolument partout pour flinguer la population. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est, et même ça serait compliqué, mais on a mis 40 pièges sur la totalité de la commune. Donc au niveau de l'impact sur les populations de coléoptères, c'est nul, juste. Donc 40 pièges, et si on veut pouvoir répondre à la question de départ, je vous rappelle la contribution des haies et des arbres isolés anciens dans le maintien de la biodiversité forestière versus juste les forêts anciennes. On a mis du coup 20 pièges dans des haies anciennes et 20 pièges dans de la forêt ancienne. Et puis après, on va comparer les peuplements. On va s'intéresser aussi à un deuxième bioindicateur qui était le lichen. Là, on s'est dit, si ça se trouve, le lichen, il chope de l'information sur l'habitat que nous, gros homo sapiens, on ne chope pas. Donc, dans les 20 pièges haies, on avait 10 pièges haies avec le lichen, 10 pièges haies sans le lichen. Et pareil dans la forêt, 10 pièges forêt avec lichen, 10 pièges forêt sans lichen. Donc là on a posé nos pièges, on est prêt, on va récupérer nos bestioles, les envoyer au labo. Mais alors maintenant il va falloir les identifier, et là je vous disais, il y en a beaucoup, ils sont super variés et tout ça. Par qui on commence? Et donc on a décidé de démarrer par les cérambycidés, donc la famille des longicornes. Donc je vais vous présenter les résultats pour les longicornes. Alors, au final, avec nos 2 mois de piégeage, donc au bout de 2 mois, on a tout démonté et tout ça, en 2 mois de piégeage, on a récolté environ 1800 bestioles, de cérambycidés uniquement. Les autres, on a gardé tout le monde. Sur ces 1800 bêtes, on avait 25 espèces, avec 4 espèces vraiment assez majoritaires. Alors, aucune des espèces avait son IP plus IF supérieur à 6, comme avait demandé Bruckner précédemment. Mais par contre, on avait quand même 10 espèces dont l'IP, l'indice de patrimonialité, était de 2. C'est la note maximum qu'on avait chez nos cerfs ambicidés. Cette note de 2, elle correspond à soit des espèces qui sont en faible densité un peu partout, ou soit des espèces en très forte densité, mais sur un habitat très limité, quoi. Et parmi ces 10 espèces, on avait aussi 4 espèces qui font partie des listes ZNIEF, des listes d'espèces déterminantes pour les ZNIEF. ZNIEF, c'est zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et forestique. Donc c'est un classement de protection après. Alors, pour répondre, et donc les 4 en question, je vous les ai mis en photo, elles sont très jolies. Pour répondre à la question, par contre, est-ce qu'on observe une différence de peuplement entre, par exemple, des coléoptères de haies et des coléoptères de forêt? Eh bien, la réponse, c'est non. Ni entre dans les haies ou dans les forêts, ni avec le lichen ou sans le lichen. Alors, il y a 2 manières d'interpréter ce résultat. Soit on se dit, il y a le même type de biodiversité forestière dans les haies que dans les forêts, donc les haies contribuent autant que les forêts à maintenir la biodiversité forestière. Soit on se dit, on prend peut-être un peu des pincettes parce qu'on n'a que 25 espèces, dont 4 ultra-majoritaires. Donc, est-ce que c'est suffisamment solide statistiquement pour raconter ça? Et est-ce qu'on n'essaye pas, pour solidifier un peu justement notre réflexion, d'identifier d'autres familles, d'autres espèces, pour essayer de, voilà, d'abonder dans ce sens ou de démolir l'hypothèse? Et du coup, là-dessus, Fred s'est mis à déterminer les élatéridés. Donc, c'est en cours. c'est long, les élatéridés. Voilà. Tu voulais ajouter un truc?
Non, non.
Je continue un peu encore. maintenant, on va passer au lichen. On laisse nos coléoptères de côté. Nos lichens, je vous les présente. On s'est intéressé à 2 espèces, Lobaria pulmonaria, Lobaria scrobiculata. Ce sont des grands lichens, donc des lichens corticoles, ce qui veut dire qu'ils poussent sur des écorces, atal foliacées, donc ça fait comme un peu des feuilles, c'est velouté dessous, c'est très joli dessus. Donc vous remarquez assez rapidement qu'il y en a un vert et un gris ardoise, on va voir pourquoi. Et donc, je vous explique, je fais juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, au cas où. Il y a, donc le lichen, ce n'est pas une espèce, c'est 2, voire 3 espèces. En gros, il faut c'est une symbiose, une association bénéfique pour les deux parties, entre à la fois un partenaire champignon et un partenaire algue, et des fois plusieurs partenaires algues différents d'ailleurs. Et où on voit, sur les photos, là vous voyez, c'est pris au microscope optique ou au microscope électronique, à la fois donc en blanc les parties champignons, en vert ou les petits grains verts là les cellules d'algues. Et notre partenaire algal, il peut être de 2 types, soit on a une algue verte, une chlorococcale, soit on a une algue, ce qu'on appelait avant les algues bleues, qui sont des cyanobactéries. Et en fait, notre Lobaria pulmonaria de tout à l'heure, celui qui était vert, c'est un champignon avec une algue verte, et le Lobaria scrobiculata, son cousin, c'est le même champignon mais avec une cyanobactérie, d'où la différence de couleur. Alors, des lichens, la lichénologie, c'est un vaste monde. Il y a 3000 espèces en France. Elles sont quasiment de toutes formes et toutes couleurs. Il y a des thalles très différents, thalles crustacées, thalles foliacées, thalles fructiculeux, des thalles complexes. Voilà, on en trouve un petit peu partout, sur des écorces, le sol, des cailloux, votre voiture si vous l'avez garée dehors. Voilà, il y en a vraiment partout. Et de la même manière que chez des coléoptères, on va avoir des espèces extrêmement généralistes, comme Evernia prunastri, et puis on va avoir des espèces beaucoup plus spécialistes, évidemment. Là encore une fois, c'est ça qui nous intéresse, et c'est en ça que nous intéresse donc Lobaria pulmonaria et scrobiculata, c'est que ce sont déjà 2 espèces qui sont identifiées dans toute la littérature comme des espèces vraiment spécifiques d'espaces forestiers anciens. comment on va faire pour localiser nos lichens et de la même manière regarder où est-ce qu'ils se situent, quels espaces forestiers ils vont préférer. Et ben, pour ça, on a mis en place une enquête de sciences participatives. La lichénologie, c'est pas facile. Ça demande souvent des compétences un peu difficiles, etc., à acquérir. Mais l'Obaria pulmonaria et l'Obaria scrobuculata, on a jugé que c'était peut-être les plus faciles de nos lichens. Donc, on l'a tenté comme ça. Et on a fait donc, des sorties avec les écoles, avec du tout public aussi et tout ça, des ateliers aussi pour présenter les deux espèces, aider les gens à les reconnaître. Et après, les gens sont partis se promener, ont pris des points GPS et nous ont ramené beaucoup de données. Je vais laisser Fred vous expliquer les résultats qu'on a eus ensuite.
Alors, ce que vous a pas dit Elsa, c'est que ces deux lichens sur lesquels on peut travailler en sciences participatives, parce que si vous voyez un Lobaria pulmonaria, ça peut être gros comme une feuille de laitue sur un tronc d'arbre. Donc c'est assez facile à identifier et s'il y a un doute, il suffit de prendre une petite photo, de nous l'envoyer et nous on peut valider l'identification par exemple. Donc du coup, sciences participatives sur ce genre d'organisme, ça marche super bien parce que ça permet de récolter un nombre de données beaucoup plus important que ce qu'on pourrait espérer nous récolter si on faisait nous-mêmes le terrain. Et ça permet aux gens de s'approprier des groupes auxquels ils n'ont pas fait forcément attention jusqu'à présent. Et par exemple, on a à peu près 1 000 000 de données de localisation sur l'échelle de la commune de Janciou, qui fait un tout petit peu moins de 80 km², pour l'Obaria pulmonaria et pour l'Obaria scrobiculata, ces deux espèces indicatrices de la continuité forestière, c'est-à-dire de forêts qui sont peu perturbées, soit dans l'espace, soit dans le temps. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les types de milieux qui les hébergent en priorité. Est-ce que ce sont des espèces qui présentent une affinité particulière pour un type d'espace forestier donné, puisque c'est ce qui va nous permettre, après nous, de discuter sur la notion de refuge et de centre dispersion pour ces indicateurs de milieux forestiers de qualité. Alors, comment on peut travailler là-dessus? Vous pouvez simplement vous amuser à compter le nombre d'observations dans des forêts très anciennes, dans des forêts qui ont poussé entre 1842 et 1950, dans les forêts plus récentes, dans les anciens linéaires de haies, des choses comme ça. Mais si vous ne faites que ça, ça ne va pas vous permettre de travailler sur la notion de préférence écologique. Pourquoi ? Je vais prendre un raisonnement un peu par absurde. Si vous observez un maximum de points de localisation de l'Obaria pulmonaria dans des forêts de chêne, vous pourriez conclure qu'il préfère les forêts de chêne. Sauf que si sur le territoire, il y a surtout de la forêt de chêne, ça ne sera pas de la préférence écologique. Donc pour arriver à répondre à cette question, il faut en fait que vous simuliez la répartition aléatoire de votre lichen. Une répartition dans une situation où il n'y aurait aucune préférence écologique. Donc vous prenez tous les espaces forestiers que vous avez cartographiés sur la commune, quel que soit le statut de la forêt, et vous allez balancer aléatoirement le même nombre de points de localisation dans ces espaces forestiers. Et après, vous allez compter le nombre de points d'observation par type d'espace forestier et le nombre de points générés aléatoirement par type d'espace forestier. Et en comparant les deux, vous allez vraiment pouvoir travailler à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, sur les notions de préférence ou d'évitement écologique, ou alors de, on pourrait dire de neutralité, c'est-à-dire une bestiole qui serait généraliste et qui se moquerait complètement du statut de la forêt dans laquelle elle se développe. Et qu'est-ce que nous montrent ces résultats? Eh bien, effectivement, en termes numériques ici sur le graphique de droite, vous avez les histogrammes en noir qui représentent le nombre de points de l'Obaria pulmonaria observés dans les différents types de forêts, et en gris, le nombre de points générés aléatoirement qu'on a compté dans ces différents types d'espaces forestiers. Et ce qu'on voit en se focalisant sur les résultats de la courbe noire, c'est qu'effectivement, quand on se concentre sur les espaces forestiers anciens, on a beaucoup d'observations dans les forêts anciennes et dans les haies. OK, ça on pouvait s'y attendre, c'est les seuls réservoirs de biodiversité auxquels on pouvait s'attendre, puisqu'avant, il n'y avait pas grand-chose d'autre comme forêt, on l'a vu sur le territoire. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a une préférence significative pour les haies, et que même numériquement, on a un plus grand nombre d'observations de lichens dans les haies anciennes que dans les forêts anciennes. Logique. Les forêts anciennes, il n'y en a quasiment pas en termes de surface. En fait, il y a plus de surface de haies que de surface de forêts anciennes. Et en plus, il y a une préférence manifeste de ce lichen pour les haies anciennes. Donc ce que cela montre, c'est que effectivement, il y a un évitement pour les forêts plus récentes significatif. Et cela montre qu'en termes de réservoir de biodiversité, les forêts anciennes, elles ont joué leur rôle, mais la clé du système, en fait, c'est les haies anciennes qui ont toujours été ignorés dans ce genre de problématiques, puisque pas cartographiés, puisque sur le terrain, c'est des éléments qui ne sont plus tellement forcément structurants du paysage. Nombreuses de ces haies anciennes sont plus visibles sur le terrain. Il y en a certaines qui ont été phagocytées par de la forêt récente qui a poussé autour d'elles, et on ne les voit pas dans le paysage. Par contre, on va les reconnaître quand on va se promener au sein d'une parcelle de forêt de feuillus. On va voir effectivement un vieux linéaire d'arbres anciens qui correspond à une vieille haie, toujours présent dans ce peuplement de forêt feuillue plus récente, qui a poussé autour et qui l'a englobé. Donc ça, ça nous indique la préférence par rapport au type de milieu dans lequel on trouve ces lichens. L'autre question auquel on peut s'intéresser, c'est ce que la structure du paysage aux alentours des endroits où on trouve les lichens joue sur la probabilité qu'une lichen se développe à tel ou tel endroit. Et donc pour ça, justement, c'est là où on va utiliser de façon assez détaillée les cartographies qu'on a générées, qui nous permettent de connaître l'historique de ces espaces forestiers. Et on va caractériser la structure du paysage partout sur la commune, en regardant la structure du paysage à différentes échelles spatiales. Si on prend des secteurs de 75 mètres, de 150 mètres, de 300 mètres, de 600 mètres ou de 1200 mètres de diamètre, et on va calculer dans ces différentes zones d'analyse le pourcentage de paysages occupés par les différents types d'espaces forestiers. On s'est amusé dernièrement, et ce n'est pas présent sur ce diaporama, à mesurer la longueur des écotones entre les écosystèmes forestiers et les autres écosystèmes. Les écotones, c'est les zones de marge, les surfaces de contact entre un milieu et un autre, des choses de ce type-là. Et donc ça nous permet de caractériser les caractéristiques spatiales du paysage qui sont favorables à la présence de lichens sur le territoire. Et grâce à ça, ça nous permet de modéliser la qualité du territoire, du paysage, pour la présence de ces lichens à l'échelle de la commune. Et ce qui ressort de ces analyses, c'est que c'est un lichen qui a tendance à préférer les secteurs où les altitudes sont un peu plus faibles, mais aussi qui préfère s'installer dans des paysages où il y a une forte densité de forêts et de haies anciennes. Ce qui ressort en un, c'est l'importance des haies anciennes dans la structuration de ce paysage. Et aussi, ce qui ressort en 1, c'est l'importance des linéaires d'écotones entre les haies anciennes en 1 et entre les forêts anciennes en 2 et le reste des milieux caractéristiques de ce paysage. Donc ça montre encore une fois que les réseaux de haies anciennes sur le plateau de Mille Vaches sont des réservoirs cruciaux pour la biodiversité forestière et des zones refuges qui ont été exploitées comme milieux forestiers suboptimaux à ces époques où il n'y avait quasiment pas de forêt sur le territoire et à partir desquels, progressivement, les espaces forestiers récents peuvent être progressivement recolonisés. Là, vous avez par exemple la cartographie justement des secteurs d'intérêt pour la préservation de ce genre d'organismes, avec à gauche la cartographie des densités de zones de haies encore présentes sur le territoire, et à droite la cartographie des zones de forêts anciennes encore présentes sur le territoire. Vous voyez bien entendu qu'on ne s'intéresse pas du tout aux mêmes surfaces. Et ce qui est un peu paradoxal et auquel on peut ne pas s'attendre a priori, c'est effectivement qu'il y a plus de secteurs qui sont caractérisés par des densités assez importantes de haies anciennes que par de la forêt ancienne. D'où l'importance de prendre en considération ce genre d'éléments en termes de conservation. Toujours pour travailler sur la même idée, on peut aussi s'intéresser aux capacités de dispersion de ces organismes. Un lichen, quand il est installé dans un espace de forêt ancien, quelle va être la facilité avec laquelle il va pouvoir coloniser les espaces forestiers plus récents qui vont se développer aux alentours ? Donc pour ça, on a réalisé des études un peu détaillées sur la problématique. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que grosso modo, entre 1950 et maintenant, les deux espèces de lichens auxquelles on s'est intéressé, l'Obaria pulmonaria comme l'Obaria scropiculata, ont une capacité de dispersion qui n'est pas supérieure à 81 mètres en une soixantaine d'années. Donc c'est des organismes qui, ok, se dispersent, mais de façon super lente. D'où l'importance de la continuité des milieux d'intérêt pour que ces espèces puissent se maintenir sur ce territoire. Et ce qui est intéressant sur cette cartographie, vous avez en vert foncé les rares patchs de forêt ancienne qui sont présents sur la commune de Gensiou. Et tout le réticule vert clair, c'est les zones où il y a des réseaux de haies. Et vous voyez qu'en quelque sorte, vous avez une connexion qui peut se faire entre les rares patchs de forêt ancienne, ou pour certains d'entre eux en tout cas, grâce à ces réseaux de haies qui circulent dans le paysage. Et ces calculs de dispersion qui ont été réalisés de façon assez détaillée sur une toute petite zone d'étude sont confortés par ce qu'on est en train d'analyser à l'échelle de la commune en intégralité. Et c'est le même genre de capacité de dispersion qui ont été montrées par d'autres études sur ces mêmes organismes, dont les piémonts italiens par exemple. Alors je ne sais pas si vous savez comment ça disperse un lichen en fait, il ne va pas partir en marchant. C'est au moment de la reproduction du lichen. Vous avez différents modes de reproduction, soit le champignon, qui est impliqué dans cette association algues champignons, va fabriquer ce qu'on appelle des apothécies, c'est des organes producteurs de spores. Donc ça, c'est des éléments suffisamment petits pour pouvoir être emportés par un courant aérien. Mais la spore qui va se déposer sur un tronc d'arbre pour redonner le lichen va devoir avoir la chance de trouver à proximité l'algue avec laquelle elle doit s'associer. Sinon, le mycélium commence à germer, puis ça ne donne plus rien. Donc c'est une dispersion un peu longue distance, mais vous avez vu les distances, hein. Mais avec des risques que ça ne marche pas. Et il y a quelque chose qui est un peu plus efficace, à moins longue distance. Les lichens sont capables de fabriquer des paquets de cellules d'algues et de champignons. Ça fait des corpuscules un peu plus gros qui ne vont pas facilement disperser par le vent parce que c'est trop lourd et qui pourront disperser à proximité quand une loche, une limace passe par là, un coléoptère, machin. Et donc, du coup, c'est la dispersion à plus courte distance. Mais comme vous avez déjà associé dans ce paquet de cellules à la fois des cellules algales et des cellules de champignons, la réinstallation du lichen est plus assurée. Mais quoi qu'il en soit, pas plus de 80 mètres en 60 ans.
Prendre en compte l'histoire des continuités écologiques et de, parce que si là on avait, si on oublie complètement le compartiment des haies et qu'on garde uniquement les forêts anciennes, on a un habitat ultra fragmenté avec des espèces qu'on a très faible capacité de dispersion. Le résultat, c'est la probable extinction en fait, puisqu'elles n'arrivent pas, si à un moment il y a une espèce qui disparaît pour une raison ou une autre d'un des patchs, il n'y a pas de recolonisation possible, ils sont trop éloignés les uns des autres. C'est grâce aux haies en fait que les patchs peuvent être connectés les uns aux autres et qu'il y a une recolonisation possible par ces espèces. Donc la conclusion en fait, en gros, c'est qu'il faut arrêter de toucher aux arbres anciens, qu'ils soient en gros de boisement ou de haies anciennes. En gros, il faut arrêter de couper quoi. Si on veut pouvoir avoir ces zones refuges qui vont pouvoir après amener cette biodiversité dans des forêts plus récentes qui sont en train de vieillir, si on les laisse vieillir, il faut juste arrêter de toucher à ces arbres anciens, non seulement les boisements, mais aussi les haies, et vraiment pas oublier ce compartiment des haies, en n'oubliant pas voilà, ces distances de dispersion de 80 mètres maximum. Ça veut dire que si vous faites péter en gros 4 chaînes sur une haie et vous faites un trou de plus de 100 mètres, ça y est, c'est la communication est coupée. Donc voilà, il y a ce truc-là. Donc éviter de couper, déjà, et d'une. Et d'autre, potentiellement, là où la haie elle a déjà été coupée, c'est trop tard, et replanter, parce que tout de suite, une haie comme ça, elle ne va pas être très utile à des espèces de biodiversité, des espèces vraiment de milieux forestiers anciens. Mais si elle n'est pas plantée un jour, elle ne deviendra jamais une haie ancienne. Donc voilà, il faut planter pour reconnecter les espaces qui sont pas encore reliés les uns aux autres. On le dit pour les forêts, mais on le dit également quand on travaille, nous, sur les espèces de tourbières, etc. L'idée, c'est vraiment, pour chacun des milieux, il y a des espèces spécialistes qui ont besoin de disperser, et donc il faut travailler à l'échelle d'un territoire à un maillage entre espaces forestiers et espaces plus ouverts, patrimoniaux, type landes, tourbières, etc., et voir comment on arrive à tisser des connexions pour ces différents types de milieux. Et alors, donc par chez nous, il y a pas mal d'aides un petit peu là, qui aident aux agriculteurs pour planter des haies. Il y a aussi des projets citoyens, comme dans le village d'à côté, où ils essayent de travailler à l'échelle du bourg pour replanter des haies et tout ça. Donc il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Et nous, ce qui nous a un peu alerté les derniers moments, et on a un peu travaillé dessus récemment, c'est le recours aux plantes exotiques au sein de ces plantations de haies. Donc un conseil qu'on donne, et qu'on a fait une conférence là-dessus il n'y a pas très très longtemps, c'est vraiment d'éviter éviter en fait de planter des exotiques parce qu'on approfondit le problème. Les plantes exotiques, hein, c'est, on le rappelle, les plantes, toute la problématique des exotiques envahissantes, c'est quand même une des 5 causes de perte de biodiversité à échelle mondiale. On peut y revenir après, mais voilà. Donc privilégier des essences locales. Les essences locales, c'est pas forcément ce que vous avez dans un rayon de 20 mètres autour de vous, mais c'est à minima le domaine biogéographique auquel on appartient, c'est-à-dire l'Europe occidentale. Donc exit l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie, on arrête les eucalyptus. On a une biodiversité super importante ici. On va prendre de la lisier, de l'aubépine et des trucs comme ça, on va faire des haies sympas. Et parce que souvent, en fait, quand on discute avec des gens qui veulent vraiment bien faire et qui sont dans, comme ça, dans des démarches de plantation de haies, ils nous disent, mais il y a le réchauffement climatique, la flore locale ne va pas être adaptée dans ce cadre-là. Alors, il y a des solutions pour les gens que le réchauffement climatique angoisse, et c'est angoissant. Hein, ça, voilà. C'est tous les tests au niveau des migrations assistées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. En fait, l'idée de la migration assistée, c'est de prendre une espèce et de l'aider à migrer, parce que les arbres, avec leurs racines et tout ça, ils vont doucement. Et donc, l'idée, c'est d'aider une migration qui, de toute façon, naturellement, aurait eu lieu, mais trop lentement par rapport à la rapidité des modifications climatiques qu'on subit aujourd'hui. Et donc, il y a la migration assistée d'essence. Alors ça, par exemple, c'est mon copain qui est producteur de noix en Dordogne. Là, ses noyers sont en train de clamser. Et donc, il va chercher des oliviers dans le sud de la France et il plante des oliviers en Dordogne. C'est 200 km. C'est l'idée d'aider les espèces à remonter. Et puis, il y a la migration assistée de provenance. Et ça, c'est ce que fait l'ONF, par exemple, dans le projet Giono en ce moment, où ils vont chercher des semences de chêne de la Drôme pour replanter des chênes dans le Morvan. Voilà, donc deux types de tests qui, éthiquement, sont vraiment tout à fait intéressants. Par contre, voilà, éviter de jouer aux apprentis sorciers, on l'a beaucoup fait et on en est là. En tout cas, merci pour votre accueil et pour votre écoute. Et n'hésitez pas à aller sur le site de l'asso, assochampdespossibles.wordpress.com. En fait, on a des pages où on met toutes nos publis. Vous pouvez trouver la synthèse de l'étude qu'on vous a présentée aujourd'hui, mais aussi toutes sortes de conférences et autres documents qu'on produit régulièrement. Voilà. Et puis, merci.
Bonjour. Je voulais savoir si la forêt jardinée, qui est une certaine technique, a moins d'impact quand même sur la difficulté de dispersion des coléoptères et autres habitants, c'est-à-dire avec un prélèvement vraiment assez léger. Voilà, juste pour le bois de chauffage, peut-être un petit peu de bois d'œuvre.
La forêt jardinée, du coup, c'est une forêt où on prélève un peu de bois de chauffage et de bois d'œuvre, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ouais. Et ben, oui, pour en parler, mais c'est une technique qu'on a un peu abordée au sein du RAF, le réseau alternatif forestière, de façon à ce que quand on a fait un prélèvement, on sort de la forêt, ça ne devrait pas se voir ou quasiment pas se voir, visuellement pour nous les humains. Mais je ne vois pas, je ne connais pas l'impact que ça peut avoir sur la dispersion des différents coléoptères et autres.
Alors, bien entendu, c'est un des modes de gestion forestière qui est super intéressant parce que ça ne rompt pas la continuité forestière et ça ne rompt pas l'existence d'une classe d'âge d'arbres, c'est dur à dire, d'une classe d'âge d'arbres au sein d'un peuplement puisqu'on se débrouille toujours pour qu'il y ait un peu tout le monde. Si vous me reprenez si je raconte des bêtises, mais c'est ça la logique. Aussi, ce qu'il faut prévoir, à mon avis, dans les scénarios de gestion forestière, c'est par exemple des îlots de sénescence où on laisse à certains arbres la liberté de crever sur place et de se transformer en chandelles. Et ces chandelles, un beau jour, de tomber au sol et de continuer leur processus de dégradation jusqu'à ce que ça redevienne du terreau. Et donc ça fait partie de ce genre de préoccupation. Donc là, il n'y a pas de rupture de continuité ni d'âge ni dans l'espace. Et c'est un mode de gestion effectivement qui est super intéressant.
Oui, c'est prévu dans le plan de laisser les arbres morts au sol et des arbres morts debout.
Oui, oui, bah, voilà, c'est ce qui est le plus important, en fait. Parce que comme vous avez vu, Coléoptères saproxyliques, ils ont besoin de bois mort. Et que c'est un quart de la biodiversité forestière qui est dedans. Donc, c'est super important. Moi, j'ai vu des gens avec la plus grande bonne volonté du monde qui prenaient une forêt et qui se disaient, on va prélever un minimum, on va prendre... que le bois mort.
Non, ça, c'est une très
bonne idée. C'est ça. Voilà, c'était une fausse bonne idée.
Oui, par contre, l'implantation de haies, c'est compliqué. Il y a déjà des îlots de Rosa canina. Enfin, il y a aussi des îlots de ronces qui permettent d'abriter des animaux plus grands et des genêts, des ajoncs, bon, qu'on laisse en l'état. Voilà, mais on ne peut pas installer des haies à ce moment-là parce que il y a une faune qui est importante.
Oui, tout à fait au début, vous parliez que dans les années 1900, au 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup de forêts. Mais par contre, est-ce que vous pouvez nous dire, dans les années 1500, est-ce qu'il y avait de la forêt en creuse, quoi, sur le plateau d'Émile Vache? Puisque ensuite, il y a eu un problème de surexploitation du bois et que les forêts sont devenues des prés, patati patata.
Oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Alors, il y a des arguments qui nous permettent d'imaginer à partir de quand, sur le plateau de Millevaches, on a une ouverture du milieu qui s'est opérée. C'est difficile. Alors, comment ils viennent d'où ces arguments? Essentiellement, des données de la paléontologie. Où il y a des carottes qui ont été faites dans pas mal d'espaces de tourbières présentes sur le plateau, où en regardant les assortiments de grains de pollen en fonction des différentes profondeurs et donc des différentes époques, ça permet de reconstituer l'évolution des paysages. Il y a eu des travaux de synthèse qui ont été faits là-dessus, qui montrent qu'il y a eu des signes d'ouverture importants à partir du XIVe siècle, mais à partir de là, savoir quel est le degré d'ouverture de milieu, difficile. Et donc difficile de répondre à cette question. On sait qu'il y a eu de la déforestation importante depuis du coup des siècles, mais quelle était l'importance des espaces forestiers qui n'étaient pas impactés par cette déforestation? On n'en a pas idée.
On sait qu'effectivement, le résultat fin 19e, c'est le résultat d'une déforestation qui est assez poussée, voire on pourrait considérer trop poussée. Voilà. Donc, par contre, oui, c'est sûr de savoir un peu, le ratio milieu ouvert milieu fermé avec la palynologie, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, enfin, à l'échelle plus largement en France, parce qu'on a des fois tendance, avec la théorie des successions végétales, à considérer en gros qu'après la dernière glaciation, en gros, l'Europe s'est complètement couverte de forêts. Et du coup, l'homme n'a fait qu'abîmer cette forêt et déforester. Faut garder en mémoire quand on réfléchit à des échelles de temps plus larges. Qu'on est en Europe, Homo sapiens, pas depuis si longtemps que ça à l'échelle de la vie sur Terre, qu'on a des espèces, on a toute une biodiversité en fait, de milieux ouverts en Europe occidentale, qui a du coup mis des millions d'années à évoluer, et donc qui a dû trouver des milieux ouverts. Donc, même sans Homo sapiens, il y avait des milieux ouverts, sinon ces espèces ne seraient pas là.
Et pour aller plus loin que ce que dit Elsa, c'est que parmi ces espèces, si les milieux ouverts avaient pour vocation d'être des milieux fragmentés dans l'espace et sporadiques dans le temps, parce qu'ils ont pour vocation de se transformer rapidement en forêt, alors ils ne devraient héberger que des espèces généralistes hyper dispersantes. Parce que si la vocation d'un milieu ouvert, c'est de se refermer rapidement, les bestioles qui vivent là-dedans, elles ont chaud aux fesses. Elles ont intérêt d'aller vite voir ailleurs ce qui se passe quand la forêt commence à pousser. Or, tous les gens qui travaillent sur la biodiversité constatent que dans les milieux ouverts, il y a pléthore d'espèces hyper spécialisées, très peu dispersantes. Donc ça montre que les milieux ouverts ont eu une stabilité dans l'espace et dans le temps beaucoup plus longue que ce que les botanistes du 19e siècle et du 20e siècle ont pu penser pendant des lustres. Quand j'étais petit, on me disait à l'école, au temps des Gaulois, un écureuil pouvait traverser la Gaule en sautant des branches en branches. Eh bien, faut revoir ça. Faut revoir ça, et en particulier, avant que l'homme ait foutu le bazar, il y avait plein de grands herbivores. Il y avait l'auroch, l'élan, le cheval de Przewalski, le tarpan, le bison, le chevreuil, le cerf, Il reste le chevreuil, le cerf. Et donc ces herbivores sauvages ont dû contraindre localement la régénération forestière et permettre à ces milieux ouverts de le rester pendant longtemps. Et donc quand on conserve les milieux ouverts en remettant des troupeaux dedans, on utilise les moutons simplement pour faire le même job que le bison, le roc. Et donc il faut revoir ça.
Et après, comme autre facteur en plus du pâturage par les grands herbivores, il y avait d'autres facteurs qui avaient été aussi mis en évidence, comme tout ce qui est inondation, parce qu'à l'époque, les fleuves n'étaient pas canalisés, et les incendies. Aussi morceau, les incendies, parce que dans le sud de la France, quand ça commençait à brûler, ça brûlait, la Méditerranée brûlait, quoi. Donc ça ouvrait le milieu, d'une certaine manière. Voilà. Du coup, voilà, quand on pense paysage, c'est vrai que ça peut... ça devait être déjà un maillage. Et aujourd'hui, ce qu'il faut restaurer, c'est les continuités écologiques des différents types de milieux, aussi bien forestiers que des milieux ouverts.
Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Et je voulais savoir si vous pouviez revenir sur les fonctionnalités écologiques des lichens, par exemple, dans quelle chaîne alimentaire ça peut rentrer. Enfin, qu'est-ce qu'on connaît de du rôle écologique des lichens?
On sait surtout qu'ils sont 3000 en France et qu'ils doivent probablement avoir des différences entre eux. C'est souvent une question qu'on nous pose quand on travaille. Nous, on travaille aussi beaucoup en entomologie et notamment en arachnologie. Et on nous demande souvent à la fin des exposés, mais alors elles servent à quoi les araignées? Et souvent, elles servent à rien, en fait, pas plus que nous-mêmes. Voilà.
On sait qu'il y a dans la chaîne alimentaire, à un moment donné, ça nourrit.
Nourrit du monde.
Ouais. Voilà, donc c'est juste.
C'est un des éléments de la chaîne alimentaire. Puis les lichens aussi, ils ont aussi un autre rôle. C'est les premiers éléments qui colonisent des substrats nouveaux et qui font partie des premiers organismes qui sont créateurs d'un premier sol squelettique sur lequel le reste de la série de végétation va pouvoir se mettre en place. C'est les végétaux pionniers. Moi, j'en ai même qui poussent sur la carrosserie de ma voiture. Je ne sais pas si je peux espérer qu'il y ait une forêt mature dans quelques siècles sur ma bagnole. Mais en tout cas, si on veut leur chercher un rôle écologique, ça peut être celui-ci. Après, c'est sûr que pour les lichens corticoles, ce n'est pas là où ce genre d'enjeu écologique va se mettre en place.
Et après, dans d'autres écosystèmes.
Mais ils font partie de chaînes alimentaires et des coléoptères qui les bouffent. Il y a des gastéropodes aussi.
En Scandinavie, c'est les rennes, mais nous, on n'a plus de rennes. Donc, Oui, moi, ce que j'ai lu quand même, c'est que pulmonaire, c'était parce qu'il a une forme, il a une forme un peu en alvéole, etc., et qu'il n'y avait rien qui était prouvé a priori, ça ne vous fait pas de mal, au moins, mais il n'y a pas grand-chose qui est prouvé sur le bien que ça peut faire. Sur la consommation des lichens, faites autant attention que quand vous consommez des champignons. Il y a une ou deux espèces en France qui sont carrément bien toxiques, quoi. Mais il y a un champignon dans l'histoire, donc faites aussi attention que si vous essayez de manger un champignon, quoi. Renseignez-vous sur ce que vous mettez dans la bouche.
S'il est indéniable que l'on voit les limites des monocultures et notamment de l'enrésinement, mais c'est valable également pour des chênaies purs ou des très purs, ne peut-on pas considérer ou avoir envie qu'à partir des Douglas, ces plantations de Douglas puissent servir de tremplin à de nouvelles forêts, plus mélangées, plus mixtes, plus diversifiées?
Si on diversifie les plantations de Douglas, c'est pas le Douglas qui va être tremplin à ça, c'est parce qu'on aura eu la volonté d'arrêter de faire de la monoculture, me semble-t-il. Après, quand on regarde la biodiversité associée au Douglas, elle est ridicule, parce que comme c'est une espèce exotique, elle est venue avec un cortège d'espèces associées faibles. Un chêne, c'est plusieurs centaines d'espèces d'insectes.
Ce que je veux dire, c'est que quand la sylviculture est maligne, fine et observatrice des dynamiques du vivant, à partir d'un peuplement de Douglas extrêmement pur, qui est extrêmement homogène en âge, les prélèvements de l'homme au fil du temps de ces éclaircies peut largement être accueillant. Ah oui. Toute la nature perdue.
Moi, j'en ai discuté avec pas mal. On avait fait une conf aussi la dernière fois pendant la dernière AG du RAF, donc sur la biodiversité en forêt. et l'année où ça avait lieu à Tarnac. J'en avais discuté avec des forestiers qui disent sur le fait que on a le Douglas, donc espèce exotique, il n'y a pas de champignons qui bossent avec, il n'y a pas la faune associée, ça va être compliqué d'en faire quelque chose d'intéressant à part de limiter sa place. Et du coup, le truc de l'enlever complètement pour attendre qu'une nouvelle forêt repousse, le problème, c'est la catastrophe en fait de mettre un sol à nu avant que ça repousse, même si des fois ça peut être imaginable. Et du coup, il y avait un forestier qui me disait, mais moi j'ai fait une expérimentation sur une des forêts que j'avais en gestion. J'ai découpé la forêt, ma monoculture de Douglas en mailles de 200 mètres, 100 mètres par 100 mètres ou un truc comme ça. Et puis j'ai fait un damier, j'ai enlevé les Douglas, voilà. Et puis, dans 5-10 ans, quand mes carrés auront poussé, j'enlèverai l'autre damier. Voilà. Ce qui signifie à la fin l'éradication du Douglas, de la parcelle, mais sans mettre d'un coup le sol à nu et du coup de faire une interruption dans le couvert forestier. Quoi.
Après, de façon peut-être anecdotique, mais le Douglas, il est porteur d'Helobaria en Amérique du Nord, pas chez nous, mais c'est sur des individus qui sont pluricentenaires. Je crois qu'on les coupe à 30 ans maintenant.